J'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 15. L'évangile de Marc au chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 16. Alors pendant que vous trouvez ce passage, je dois signaler que si cette semaine a été riche en émotions contradictoires pour moi, les derniers 24 heures de la vie du Seigneur Jésus ont aussi été riches en émotions très différentes. Dans la perspective juive, la journée commence à la tombée de la nuit et va jusqu'à l'autre tombée de la nuit. Donc, pour nous, si vous voulez, la journée de Jésus a commencé jeudi soir et elle va se terminer vendredi soir. Et à la tombée de la nuit du jeudi, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur Jésus a passé un moment de repas, de communion avec ses disciples. C'était un repas où la joie, l'amitié avaient part. Bien sûr, quelques heures plus tard, le Seigneur Jésus, trahi, allait être traîné devant les autorités juives d'abord, et puis les autorités romaines, et il allait être battu, humilié, questionné, et nous le trouvons maintenant, au verset 16. Pris par des soldats. Lisons ensemble. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient, et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres !» et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons étudier la crucifixion de Christ en 2 temps. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler des souffrances morales et physiques de Jésus. La prochaine fois, nous parlerons plutôt des souffrances spirituelles de Jésus. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est pour ça que ça va être difficile, c'est un petit peu détailler les souffrances que Jésus a subies à la croix. Puis nous verrons assez rapidement ensemble Quelle est l'ironie de toute cette situation qui nous est décrite ici? Et finalement, nous irons voir, je dois dire aussi assez rapidement, nous irons voir en quoi ce qui s'est passé là avait été annoncé bien avant la venue de Jésus dans ce monde, et était donc l'accomplissement de la volonté de Dieu et des prophéties. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Jésus est condamné. Il a été condamné et on nous dit juste avant, au verset 15, qu'il a été battu à coups de fouet. Alors, on a déjà parlé la dernière fois de quelle sorte de fouet c'était. Hein. C'était ces fouets romains qui étaient des instruments de torture particulièrement vicieux qui non seulement agissaient comme un fouet en frappant, tuméfiant la peau, mais aussi avaient attaché au bout des morceaux d'os et au bout des lanières des morceaux d'os et de métal, ce qui fait que non seulement la peau était tuméfiée, mais aussi la peau était arrachée. Ce qui explique la suite des événements lorsque le Seigneur Jésus est emmené par les soldats, lorsqu'il jette sur lui un manteau de couleur pourpre, et qu'à la fin, il lui arrache ce manteau, cela cause au Seigneur Jésus d'abominables souffrances. Son dos est en lambeaux et est en train de, comme tout notre système est fait pour, hein, est en train d'essayer de guérir. Et bien sûr, à chaque fois que on touche, on le maltraite, eh bien les plaies qui sont déjà bien ouvertes s'ouvrent encore plus et la douleur est absolument terrible. Mais ce n'est pas la fin de sa douleur. Les soldats, alors on nous parle ici d'une cohorte. Certains se disent que probablement le mot est employé de façon peu technique, parce que une cohorte, c'était 600 hommes. On s'imagine plutôt que c'était probablement un groupe de 200 hommes. Alors il faut comprendre qui étaient ces soldats. Ces soldats, c'était des gens qui avaient été choisis, qui étaient des non-juifs, et qui avaient été amenés à Jérusalem pendant la période de la Pâque, parce que c'était toujours lorsqu'il y avait de grandes foules qui venaient de tout l'Empire pour célébrer les fêtes juives, c'était toujours un moment dangereux pour les Romains. S'il y avait une révolte, il y avait beaucoup de monde, et on comprend bien les choses, hein, lorsqu'il y a des très grandes manifestations en France, vous voyez les CRS qui arrivent par quarantier, au cas où les choses dégénèrent, il faut avoir des personnes qui sont là. Alors, peut-être 600, peut-être 200, on ne sait, mais toujours quand même un grand nombre de personnes. Et ces troupes vont insulter Jésus, vont se divertir en se moquant de Jésus. Non seulement il y a les souffrances physiques de Jésus, mais il y a aussi les souffrances morales dues à la cruauté de l'être humain. Il est méprisé, abaissé. On lui crache dessus. Et moi, ce qui me frappe, la première chose qui me frappe, c'est vraiment le mouvement de foule. J'en ai déjà un petit peu touché un mot la dernière fois, mais l'être humain est un être social. Et en tant qu'être social, nous nous laissons influencer par les autres. Il n'y a pas longtemps, il y avait une vidéo qui est apparue aux États-Unis. C'était une vidéo d'un hélicoptère qui a capturé, avec la vidéo, a capturé une scène assez étonnante. C'était un fugitif, un homme qui essayait de s'éloigner le plus loin possible de policiers qui le poursuivaient depuis un bon moment. Il était à cheval et il a été immédiatement maîtrisé. On lui a envoyé un de ces petites fléchettes avec une décharge électrique. Il est à terre, à ne plus bouger. Et là, chose surprenante, les policiers, d'abord un, et puis deux, et puis jusqu'à une dizaine de policiers qui arrivent, ils commencent à le frapper. Et à le frapper. Et à le frapper. Alors bien sûr, de façon totalement illégale, ça leur a causé énormément d'ennuis à ces policiers, ce qui est totalement normal. Mais là, le mouvement de foule, la colère d'un, que l'on peut comprendre, parce que ça faisait des kilomètres qu'ils poursuivaient à travers monts et forêts, ce fugitif, ils étaient fatigués, ils étaient énervés, mais ils l'attrapent. Ils sont censés suivre la loi, l'arrêter, mais ils le frappent. Mais pas un, pas deux, ils s'y mettent tous. En tant que chrétien, il faut que nous apprenions à toujours nous méfier de l'effet d'entraînement d'un groupe, de tout groupe. Je suis parfois absolument abasourdi de voir comment même des chrétiens peuvent se laisser entraîner par effet de groupe à faire et à dire des choses qui ne sont pas justes. Les amis, c'est pour moi aussi. Il faut toujours vérifier que ce que nous disons, ce que nous faisons, est juste par rapport à ce que Dieu dit. Et ne pas juste dire parce que tout le monde pense comme ça, c'est bon. Non, la foule peut avoir tort. La majorité peut se tromper. Et même la majorité des chrétiens peuvent se tromper. La méchanceté, la cruauté, le mépris devraient être bannis de nos pensées, combattus en nous. Et c'est tellement naturel. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite de mépriser les autres. En tant que chrétien, nous ne devrions pas mépriser les autres. Parmi le texte qui a été lu ce matin, il y avait un texte qui disait, lorsque les gens vous posent des questions, avec respect, vous allez essayer de leur répondre. Mais combien de fois il n'y a aucun respect, aucune humilité. Alors le jeu cruel continue, le dos de Jésus est en sang. Ils mettent sur sa tête une couronne tressée de rameaux épineux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, cette semaine, il y a une nouvelle comme de quoi le suaire de Turin va être montré. Alors, peut-être la plupart d'entre vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire, le suaire de Turin? Le suaire de Turin, c'est un linceul, un très très long linceul, sur lequel il y a une image recto verso d'un homme nu qui a été crucifié et dont toutes les blessures semblent point pour point être celles décrites dans la Bible. Alors c'est un sujet de controverse. Et je dois vous dire que les reliques de l'Église catholique, j'en ai généralement absolument rien à faire. Rien à faire, je trouve ça bizarre, étrange, ces morceaux d'os dans les églises, c'est étonnant, mais bon, si ça les aide, moi je veux bien, moi je ne comprends pas vraiment. Mais là, le suaire de Turin est quelque chose d'assez fascinant, et bien que certaines études au carbone 14 semble montrer que c'est un quelque chose qui aurait été fait au Moyen-Âge. Beaucoup ne sont pas véritablement d'accord avec ça et demandent à ce que des tests soient refaits. Pourquoi? Parce que, de façon anatomique, le suaire est vraiment absolument extraordinaire. Lorsqu'on voit ce que les gens du Moyen-Âge étaient capables de faire au niveau de la façon de montrer les... de montrer les êtres humains de façon anatomique, c'était loin d'être parfait. Alors que là, nous avons un corps, nous avons aussi du vrai sang sur ce suaire, et l'image est en négatif. D'ailleurs, on n'a aucune idée comment l'image est arrivée là. On est incapable de refaire cette image. Il y a énormément de choses qui sont très très étranges. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle, ce qui est intéressant dans le suaire de Turin, c'est que, alors que dans les églises et que dans notre imagination, la couronne d'épines est comme une couronne faisant un cercle, dans le suaire de Turin, il n'y a pas de couronne. Mais par contre, il y a du sang. Il y a des marques de sang. Mais les marques de sang ne sont pas juste autour, mais sont au-dessus de la tête. Ce qui nous ferait dire... si le suaire de Turin a raison, que cette couronne d'épines était en fait un tas d'épines qui auraient été placées. Ce qui est plus compréhensible, qui va s'amuser à tresser une couronne d'épines, vous allez vous faire du mal. Par contre, vous attrapez un paquet d'épines et vous le posez sur la tête. Ce qui expliquerait aussi que lorsqu'on frappe sur la tête... il y a ce paquet d'épines et cela fait des trous partout. Ce matin, je me suis fait peur. Je me rase, je prends ma douche, comme vous tous, j'attrape ma serviette, je m'essuie, je regarde ma serviette, il y a du sang partout. Je dis, mais je vois pas. En plus, bon, il faut bien comprendre que quand je me rase, alors je mets lunettes. Alors, je suis un peu aveugle. Et de toute façon, là, je suis sans mes lunettes, je suis aveugle. Je regarde, je vois pas où le sang peut venir. En fait, il s'était avéré, je m'étais coupé juste l'oreille, mais je le sentais pas. Et ça saignait abondamment. La tête, les amis, saigne vraiment abondamment. Et la vision de Jésus devait être une vision d'horreur entre son don lacéré et tous les trous causés par ses épines dans sa tête. Il y avait du sang partout. Et le problème, c'est lorsqu'on perd beaucoup de sang, on perd des forces. Et c'est bien ce que nous voyons là. Lorsque le Seigneur Jésus, lorsqu'on a fini de lui cracher dessus, de le battre, de se s'agenouiller devant lui, de se moquer de lui, lorsqu'on lui remet ses vêtements et on l'amène dans la ville, hors de la ville pour être crucifié, il est incapable de porter. De porter cette poutre que l'on donnait aux prisonniers. Alors, souvent dans les images, dans les films aussi, on voit des personnes qui transportent une croix. Mais ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. La poutre verticale était déjà installée sur les lieux de mise à mort. La poutre qui était transportée, c'était la poutre qui allait être la poutre horizontale. Donc le prisonnier avait attaché sur son dos une poutre de 15 à 20 kilos. Alors c'est lourd, un homme peut le porter. À part un homme qui a été battu à tel point qu'il est incapable de le porter. Et c'est ce qui se passe ici. Un homme, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, et l'apôtre Marc nous dit... le père d'Alexandre de Rufus, les Romains l'obligent à porter la croix, c'est-à-dire cette partie, cette poutre de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, à force d'avoir été battu à cause de toute la perte de sang, le fait que son dos est absolument en lambeaux est incapable de transporter cette poutre. Alors la chose qui est intéressante au passage, hein, je le dis, c'est que Alexandre et Rufus sont cités parce que Marc écrit à l'église de Rome. Et dans l'épître de Paul aux Romains, Paul signale de bien saluer l'excellent Rufus qui est dans l'église de Rome. Si Marc donne ce petit détail, c'est parce que les Romains, visiblement, connaissent les deux fils de Simon de Cyrène. Ce qui voudrait dire, cette personne qui a porté cette croix de Christ, bien, cette personne s'est convertie et ses enfants aussi. Et donc, ils sont amenés, les prisonniers sont amenés, et Jésus bien sûr, au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne qui est en dehors de la ville. Alors comprenez bien, les Romains, comme les Juifs, lorsqu'il y avait des exécutions, le faisaient en dehors de la ville. On ne voulait pas souiller la ville. Alors de nos jours, il y a une église, hein, l'église du Saint-Sépulcre, au lieu où on pense que se trouvait Golgotha. Alors certains ne sont pas d'accord, il y a un autre site, mais d'après ce que j'ai lu, il semble que c'est probablement le bon site. Maintenant, ce site est à l'intérieur des murs, mais ce n'était pas les murs du 1er siècle, ce n'était pas les murailles du 1er siècle. Au 1er siècle, c'était à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut dire cela? Parce que des fouilles ont été faites, et à côté de cette église, on a trouvé un ancien cimetière. Or, les cimetières, à cette époque-là, n'étaient pas mis dans la ville, étaient mis en l'extérieur de la ville. En plus, on a trouvé une ancienne carrière, d'où on extrayait des pierres. Or, les carrières n'étaient pas dans la ville non plus, c'était trop compliqué. Donc, on pense que le site actuel, bon, qui est totalement changé, puisqu'une église a été construite dessus, est probablement le bon site. Mais tout ça, ce sont des détails. Golgotha, c'est le lieu du crâne. Excusez-moi. Alors, Golgotha, c'est un mot araméen. Hein, et on appelle aussi le calvaire. Ça, c'est la traduction latine. D'accord, du mot. Et là, ils le clouèrent, nous dit le verset 24, ils le clouèrent sur la croix. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est drôlement rapide, ces histoires. Pourquoi est-ce qu'aucun des évangélistes nous explique comment les choses étaient faites? Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas en parler. Parce que c'était une horreur. Et puis, en plus, tout le monde connaissait cette horreur. La crucifixion était le moyen le plus humiliant, le plus dur pour les Romains de tuer quelqu'un. Dur pour la personne, bien sûr. C'était pour les esclaves en fuite, c'était pour les personnes qui s'étaient rebellées contre l'Empire romain. Donc c'était vraiment, vraiment pour des catégories de personnes très particulières. Les citoyens romains n'étaient pas crucifiés. La crucifixion n'en parlait pas. C'était quelque chose de trop abominable. Et voilà que Jésus est crucifié. La poutre qui a été transportée est mise à terre. On le met dessus, sur le dos, et on prend un clou que l'on va mettre dans le poignet. Excusez-moi. On va mettre dans le poignet, juste là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais en faisant bien attention à ce que les bras ne soient pas totalement étendus. Parce que si vous faites cela, la personne ne peut pas vraiment bouger, la personne ne va plus pouvoir respirer et va mourir très vite. Et le but, c'est de faire souffrir la personne et qu'elle prenne du temps à mourir. En plus, en lui faisant mal. Donc il ne faut pas étendre les bras, il faut faire que les bras soient un peu comme je vous montre maintenant, afin que la personne ait possibilité de mouvement. Et puis, une fois que la personne est crucifiée au niveau des mains, elle va être mise debout et va être soulevée pour que la poutre soit mise dessus l'autre poutre qui, elle, est plantée dans le sol. Alors, bien sûr, cela fait très très mal. Et là, on attrape les pieds du condamné et on met un pied sur l'autre. On met le pied gauche sur le pied droit et on plante un clou, les doigts de pied étant positionnés vers le sol, on plante un clou à travers les deux pieds. On fait attention, là aussi, que les genoux soient un peu pliés pour que la personne puisse se soulever. Le but, c'est que la personne puisse être capable de respirer. Mais qu'elle ait aussi très mal. Parce que si elle pampare les bras, eh bien, les clous dans les poignets font une douleur abominable. Et la seule façon d'empêcher cette douleur abominable, c'est de se soulever avec les pieds. Mais vous avez des clous dans les pieds. Donc maintenant, c'est les pieds qui ont une douleur abominable. Le dos étant en charpie, il se frotte contre ces poutres. Mais il ne faut pas imaginer des poutres en bois bien poli. Hein. Le dos continue de s'abîmer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que dans le cas de Jésus, ayant perdu son sang, il a du mal à... Eh bien, à avoir des forces, c'est compliqué. Lorsqu'il est prisonnier de cette croix, il a du mal à respirer. La seule façon de respirer, c'est de pousser sur les pieds. Pour pouvoir aspirer de l'air, mais alors, à chaque fois qu'il retombe, bon, il expire. Mais il va falloir qu'il fasse le va-et-vient. Il n'a pas le choix s'il veut pouvoir respirer. Au bout d'un moment, l'acide carbonique remplit son corps et le cœur est sur le point de lâcher. Il y a tout ça dans « Ils le clouèrent » sur la croix. Ces choses que l'on comprend maintenant, ces choses qui étaient comprises parce qu'elles étaient vues assez régulièrement à l'époque de Jésus, mais ces choses dont nous n'avons pas véritablement connaissance parce que nous sommes tellement éloignés de cette situation. Alors, il y a eu, avant que Jésus soit crucifié, il y a eu quand même une tentative de l'aider. On lui donna du vin additionné de myrrhe. C'est une tentative pour qu'il ne ressente pas autant la douleur. Mais le problème, c'est comme toute drogue, vous ressentez peut-être moins la douleur, mais vous perdez la capacité de réfléchir. Et le Seigneur Jésus, jusqu'au bout, veut être en relation avec le Père et être capable de faire la volonté du Père. Il ne peut pas permettre à ses sens, à sa capacité de réfléchir, d'être enlevé. Donc il refuse de prendre cela. Petit à petit, alors ce qu'on appelle le péricarde, ou péricardium, en anglais, le péricarde va se remplir de sérum et compresser le cœur. Je vous ai déjà parlé du carbone dioxyde qui augmente dans le sang. Et le cœur va se retrouver comprimé et de plus en plus, avec de plus en plus de difficultés à pomper un sang qui devient épais. Normalement, la crucifixion, c'était, une, je vous l'ai dit, une façon humiliante, parce que les condamnés étaient nus sur la croix. Humiliante parce qu'ils étaient exposés. C'était une façon humiliante et très très lente de tuer les gens. Alors certains ont été crucifiés et sont restés plusieurs jours sur la croix. Mais c'était généralement pas ceux qui avaient été crucifiés avec des clous. C'est ceux qui avaient été attachés. Lorsqu'on était cloué, bien, il y avait des pertes de sang et ça augmentait tout de même la mort. Alors les Romains, ils avaient une technique s'ils voulaient arrêter l'exécution, ou du moins l'accélérer, c'était de casser les jambes du prisonnier. À ce moment-là, le prisonnier ne pouvait plus se soulever, ne pouvait plus respirer, et il mourait suffoqué. Pourquoi est-ce que je décris tout cela? Parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix. Et au premier siècle, on ne faisait pas de bijoux des croix. Au premier siècle, la croix était une horreur. Et nous, on est tellement habitués à parler de croix que pour nous, ça devient juste un symbole. Mais comprenez bien, la mort de Christ a été quelque chose de particulièrement affreux. Les personnes qui étaient là, on nous parle de chefs des prêtres qui se moquaient de lui, les spécialistes de la loi, mais même les passants qui se moquaient de Jésus, parce que le lieu de crucifixion était un lieu de passage. Et même les deux autres prisonniers crucifiés, un à sa gauche et l'autre à sa droite, qui l'insultaient. Jésus était rejeté de tous. Toute l'humanité le rejetait, que ce soit les autorités religieuses, les autorités politiques, que ce soit la foule, et même les condamnés, tous l'insultaient, tous se moquaient de lui. Sur la croix était écrit le roi des Juifs, comme il se prétendait être roi, c'était signe de haute trahison pour les Romains. Quelque part, l'apôtre Jean nous dit dans son évangile que les Juifs étaient un peu offensés, en fait, qu'il y ait cet écriteau disant « roi des Juifs ». Mais là, pour une fois, Pilate ne va pas céder et va laisser l'écriteau. Alors, les amis, nous voyons ce que le Seigneur Jésus a subi à la croix. La question, c'est pourquoi? Eh bien, vous connaissez la réponse si vous avez lu la Bible. Il est mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Il est mort pour nous. La punition qui devait être la nôtre, c'est lui qui l'a subi. Tout ce qu'il a subi, c'était par obéissance au Père et par amour pour nous. La question que nous devons nous poser, elle est double. La première, c'est dans ce texte, qu'est-ce qui nous est dit sur Jésus? Eh bien, des tas de choses nous sont dites sur Jésus. Et à chaque fois, c'est dit sur le ton de la moquerie. Roi des Juifs, Jésus est... on s'agenouille, on se prosterne devant lui. On lui dit que tu vas démolir le temple et tu vas le reconstruire en 3 jours. Et d'après l'apôtre Jean, ce temple qui allait être détruit et reconstruit en 3 jours, c'était quoi? C'était Jésus qui parlait de la résurrection. Toi qui as sauvé les autres, tu es incapable de te sauver toi-même. Parce que Jésus a refusé de se sauver lui-même. Il nous sauve. Toutes les insultes, toutes les moqueries qui ont été données contre Jésus, qui ont été jetées à la face de Jésus, en fait s'avèrent être des choses qui sont vraies. Tout ce qui a été dit est vrai. Oui, il est le roi, non seulement des Juifs, mais le roi de l'humanité. Oui, il sauve les autres. Lorsqu'il disait parler de sauver, il parlait de façon physique, mais Jésus nous sauve spirituellement. Il nous réconcilie avec Dieu. Jésus-Christ n'est pas descendu de la croix, du moins il n'est pas descendu vivant, mais un jour tous le verront et un jour tout genou pliera devant lui et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Ça c'est pour la partie concernant le... Parce que nous pourrions dire l'ironie dans le texte. Mais la dernière chose que je vous ai dit, je voulais faire avec vous, très très rapidement, c'était regarder 2 autres textes. Vous avez vu ce qui s'est passé à la croix. Maintenant, voyons ce qui avait été annoncé des centaines d'années avant. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans le psaume 22. Nous allons lire juste 2 petits morceaux de ce texte, 2 petites portions. Verset 7, psaume 22, verset 7 à 9. « Moi, je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. » Tous ils ricanent, on fait l'amour en secouant la tête, ils se confient en l'Éternel. Eh bien, maintenant, que maintenant l'Éternel le délivre. Un petit peu plus loin, au verset 13, de nombreux taureaux m'environnent, ces fortes bêtes de Bazan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, une meute de méchants m'assaille, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. S'il devait y avoir une description poétique de la mort de Jésus et pourtant une description totalement, point par point exacte, on n'en trouvera pas de plus belle que ce que nous trouvons dans le psaume 22. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que le psaume 22 est écrit par le roi David 1000 ans avant la crucifixion de Jésus. David parle de son expérience de façon poétique, mais en parlant de son expérience de façon poétique, il parle en tant que prophète de quelque chose qui allait arriver 1000 ans plus tard. Et la chose qui est assez extraordinaire, c'est que la mort par la crucifixion n'a été inventée que 200 ans avant Jésus-Christ. Alors lorsque David dit Ils ont percé mes mains et mes pieds. De quoi parle-t-il? Il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui parle de cela. C'est parce que cela n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Cela allait avoir avec ce qui allait arriver 1000 ans plus tard. Le dernier texte, nous l'avons lu, mais les amis, la dernière fois, nous allons le relire à nouveau, pas en entier, mais c'est Ésaïe 53. Parce que cela nous explique, point par point, pourquoi le Seigneur Jésus est mort. Verset 3, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux, il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, ce sont nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous allons prier. Seigneur, c'est un message difficile, mais lorsque nous parlons de tout ce que tu as souffert pour nous, il n'y a rien de facile à imaginer tant de souffrances, tant de haine, tant de mépris lancés contre toi. Et Seigneur, la Bible nous enseigne qu'en fait toutes ces choses, c'était nous qui les méritions. Seigneur, voulons te dire merci. Merci parce que tu accomplis tes œuvres de façon qui nous dépasse. Merci parce que nous ne pouvons pas véritablement comprendre tes pensées. Mais merci parce que par le sacrifice de Christ, tu as décidé, Seigneur, de crucifier nos fautes et nos péchés, de nous réconcilier avec toi. Ce sacrifice nous dépasse. Que le Dieu de l'univers se fait homme, vienne sur la terre pour mourir à notre place, Seigneur, et au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou inventer. Pourtant, Seigneur, c'est ce que tu as fait. La chose absolument admirable, c'est que tu avais prévu tout cela. Tu l'avais annoncé. Et lorsque c'est arrivé, les gens n'ont toujours pas compris. Seigneur, nous vivons dans un monde qui se perd, un monde touché par le péché, où chacun erre sur ses propres voies. Chacun se perd dans ses propres chemins. Seigneur, nous te demandons cette grâce de pouvoir vivre dans ce monde de façon qui t'apporte la gloire, de façon qui reflète ce que nous avons compris de ce que tu nous as enseigné. Seigneur, nous te demandons de nous permettre de vivre selon la vérité, selon la justice, selon l'amour et la bonté, de ne pas suivre les mouvements de foule, de pouvoir toujours nous référer à ce que tu nous dis, afin de vivre de façon qui te plaise véritablement. Seigneur, seul toi peux faire cela en nos vies. Te demandons de nous permettre de te voir, de comprendre ta volonté, ce que tu désires, et de l'appliquer. De l'appliquer jour après jour, dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Amen.